Dans les textes du jour, quelques expressions surgissent. Quitte, participe, écoute, annonce. Quitte, Abraham, quitte ton pays. Timothée, participe aux souffrances du Christ. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le Christ Jésus a fait resplendir la vie par l'annonce de l'Évangile. Quitte, participe, écoute, annonce. Ces expressions mises côte à côte balisent tout un itinéraire spirituel chrétien. Elles donnent à notre existence, à toute existence, à la vôtre comme à la mienne, un sens pascal de chemin du Christ, un chemin fait d'écueils et de découvertes, d'obstacles et de passages. Dans ces textes, vous l'avez entendu, défilent Abraham, Moïse et Élie, Paul et Timothée, Matthieu l'évangéliste, et dans leur sillage, Léon le martyr, patron de cette ville qu'il évangélisa vers la fin du IXe siècle. Il y a 1400 ans, lui dont le sang versé féconde notre foi, on l'oublie trop souvent. Évoquons dans un premier temps son souvenir, puis dans un deuxième, l'histoire spirituelle de cette ville qui lui doit tant pour mieux éclairer ensuite notre façon de vivre. Et d'abord l'évocation de sa vie. Malgré l'absence ou la quasi-absence d'archives et de documents le concernant, sa haute silhouette émerge des cendres de l'histoire, celle d'un homme jeune, d'envergure, prêtre de Rouen, missionnaire du Christ, brûlant de zèle et d'amour de Dieu, nous dit une vieille chronique. On raconte qu'à peine ordonné, il ne craignait pas de rendre visite au camp disséminé des envahisseurs scandinaves, les Vikings. Rendre visite, ils étaient appelés Normands, Norsemen, et il se familiarise avec eux et leur langue. Ça lui servira plus tard. Il rencontre des chrétiens baptisés sur les bords de la Baltique, apprenant leur projet d'expédition sur la côte atlantique, il décide de s'y rendre et écrit au pape Étienne V pour lui demander sa bénédiction. Le pape le fait venir à Rome. De retour à Rouen, il revient comme évêque, il nomme un vicaire général et part dans notre région, l'Aquitaine et la Gascogne, avec deux de ses frères. Après un interminable voyage, le trio fraternel arrive aux portes de la Bourdoum, Bayonne. C'est le soir, les portes sont fermées. Ils doivent attendre le matin et se trouver un abri. Le lendemain, ils se présentent aux notables, normands en place depuis déjà plusieurs années, leur donnent bonne impression puisqu'ils se font comprendre. Ce qui est sûr, c'est qu'assez vite, Léon est admis par la population. Tant son allure, ses convictions, son charisme, son don de communication facilitent les échanges et en imposent. Plusieurs de ses auditeurs adhèrent à son message évangélique, se font baptiser et construisent, selon une tradition vraisemblable, une église en l'honneur de la Vierge Marie, à l'emplacement du temple d'Odin, c'est-à-dire ici même. Léon continue d'affirmer la foi de ses simples, qui trouvent sans doute sa doctrine bien plus satisfaisante que la religion vulgaire et guerrière d'Odin, dont le seul but était de s'étriper, de tuer ses ennemis, puis d'aller en paradis manger du sanglier et boire de la bière dans le crâne des vaincus. Léon, lui, décide de partir vers le sud, vers le pays des Basques. Il fait comme les Normands, les envahisseurs du Nord. Il suit leurs traces. Il les trouve au bord des fleuves, la Nive, la Nivelle, où ils sont déjà installés. Ils ont fait souche dans les populations locales. Le missionnaire ne se décourage pas et il annonce la bonne nouvelle, généralement bien reçue. On pense que sa mission aurait duré presque 2 ans. À son retour à la Bourdogne, son calvaire commence. Il constate les défaillances de plusieurs néophytes, subit la jalousie des prêtres païens d'Odin et la fureur des Vikings revenus de leurs expéditions sans retrouver le culte d'Odin. Quand Léon arrive près d'eux, leur chef le considère comme un ennemi et il le décapite. Consternation des chrétiens de Labourdom, qui l'enterrent sur place à l'endroit même du meurtre. Ainsi mourut martyr Léon, le noble et vaillant fondateur de la mission de Bayonne. Puisse notre ville lui vouer toujours son admiration et sa gratitude, sans laisser dévier sa fête et son nom en manifestations rigolardes et triviales, indignes de lui et indignes de la ville de Bayonne. Car, et c'est mon deuxième point, car Bayonne eut bien besoin de l'aide de Saint Léon et a toujours besoin de sa protection. Quand on relit l'histoire de la ville, on constate qu'à chaque siècle, Bayonne dut encaisser des coups durs, pas seulement économiques et politiques, mais spirituels, dans son âme et dans sa foi. Contentons-nous ici de mentionner quelques-uns de ces faits éprouvants. Le premier, à la fin du XIVe siècle, c'est le grand schisme d'Occident qui traumatise l'Europe. Résultat, 2 papes, l'un à Rome, l'autre en Avignon. Et ici, un évêque à Bayonne et un autre à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et cela pendant près de 40 ans. Enjambons les siècles, parvenons au XVIe siècle et nous entendons le glas. Car un décret de Jeanne d'Albret a aboli d'un coup de plume le catholicisme dans ses états, en Béarn et en Basse-Navarre. Alors elle a voulu imposer sa foi calviniste à ses sujets, ce que les Basques contraints n'ont jamais voulu, ni non plus les gens d'Oloron. Ils n'ont pas admis. La reine, fine mouche, une tête politique, n'a pas insisté. Elle n'a pas voulu perdre la face, mais elle n'a pas insisté. Au XVIIe siècle, un théologien bayonnais, Duvergier de Haurane, abbé de Saint-Cyran, invite dans sa propriété de camp de Prats, à Saint-Pierre-d'Irube, pendant 5 ans, un camarade d'université, Janssen, prêtre hollandais très savant. Après une lecture tendancieuse des pères de l'Église, particulièrement de Saint-Augustin, ces deux hommes ont élaboré une doctrine intransigeante sur la grâce et le salut appelée jansénisme. Et le jansénisme a influencé et a divisé durablement le clergé d'ici et le peuple et même l'Europe. Fin XVIIIe siècle, la Révolution française, avec de bonnes intentions, passe de l'abolition des privilèges à une politique répressive, instaure un régime de terreur, dresse près du palais de justice un échafaud sur la place de la liberté et impose aux clercs de France d'adhérer à la constitution civile du clergé d'inspiration gallicane, c'est-à-dire franco-française, on dirait aujourd'hui. Nombreux les prêtres et religieux qui refusent de signer. Considérés comme réfractaires, ils sont passibles de mort, condamnés à la guillotine. Beaucoup sont cachés, souvent par les petites gens de Bayonne, les chrétiens de Bayonne. Les reliques de Saint-Étienne qui étaient à la cathédrale sont brûlées sur place et ses cendres jetées dans la Dour. Les reliques qui sont ici ont été sauvées par les religieuses de l'autre côté de la Dour, qui avait un membre. Voilà. Donc, à la fin du XVIIIe siècle, ce fut un temps de terreur, d'héroïsme et de foi. Au XXe siècle, Bayonne paie largement son tribut à la guerre et on a trop vite oublié que l'évêque d'alors, Mgr Van Steenbergh, ancien professeur d'université à Strasbourg, prononça en 1942, ici même, dans cette cathédrale remplie de jeunes, une courageuse catéchèse sur l'exode et la fuite en Égypte. À mots couverts, l'évêque déconseille à cette belle jeunesse de partir pour le STO, service du travail obligatoire en Allemagne nazie. Il a été tout à fait compris des jeunes. Et il parlait, comme cet évêque parlait couramment l'allemand, il avait été un des premiers à lire et à comprendre Mein Kampf, un livre de politique d'un certain Adolf Hitler, où Hitler exposait ses idées délirantes. L'évêque paya cher son intervention, puisqu'il fut assigné à résidence, empêché de circuler, d'écrire le bulletin diocésain et de parler en public. Alors, il mourut d'une crise cardiaque très vite après seulement 4 ans d'épiscopat. En quoi donc la vie de Saint Léon éclaire-t-elle et fortifie-t-elle la nôtre ? Rappelons-nous les derniers mots du Christ sur le mont de la Transfiguration. Les disciples furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approche, les touche et leur dit « Relevez-vous et n'ayez pas peur ». En ce temps synodal, en ce temps de carême, en cette Eucharistie, puissions-nous bénéficier de cette grâce de transfiguration où le Christ propose à chacun de nous et à notre Église sa présence réconfortante et son ordre de mission, sa feuille de route. Pars, écoute, participe, fais resplendir la vie par l'annonce de la résurrection. Ainsi le fit avant vous mon envoyé, dit le Christ, mon envoyé Léon de Rouen, Léon de Bayonne, Saint Léon de Bayonne, notre cher fondateur. Il nous a arrachés, ne l'oublions jamais, à l'idolâtrie et à l'ignorance. Faites de même et soyez les témoins du Christ mort et ressuscité. Amen.